Tech & Co Business sur BFM Business. BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
On vous parle d'un été très chaud dans la avec la météo, mais on peut vous dire qu'il s'annonce aussi très chaud. Il l'est déjà dans le monde cyber avec, on va revenir sur tous ces épisodes, Mythos, Fable 5, tiens, l'apparition du premier ransomware agentiel. On va en parler avec nos invités, nos experts et voir comment les entreprises doivent anticiper un peu la tempête cyber qui souffle quotidiennement sur nos entreprises. Avec Pascal Le Digueul. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, directeur général France de WatchGuard. Benoît Grunewald, expert en cyber chez IZ France. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Et Jérôme Billois, associé en cybersécurité chez Wavestone. Bonjour.
Bonjour.
D'ailleurs, vous pouvez retrouver Jérôme en replay. On avait fait un petit point sur le baromètre des startups, hein, parce que là aussi, il y a pas mal d'innovations dans ce domaine. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, vu forcément, l'apparition du premier ransomware agentiel, des ransomware IA qui pourraient devenir indétectables par les outils traditionnels. Alors, j'ai vu ça dans la presse US. Des chercheurs en cyber ont identifié la première attaque de ransomware utilisant un agent IA pour négocier avec les victimes, adapter ses demandes de rançon et contourner les défenses. L'agent est basé sur un modèle LLM. Il a déjà réussi à extorquer 2,3 millions d'euros à une entreprise européenne en allant jusqu'à simuler des conversations humaines avec les équipes IT. Alors évidemment, tout le monde enquête de tout ça. Qu'est-ce qui commence, Pascal ?
Alors, déjà, faut corriger 2-3 petits trucs indétectables. Oui. Ce que j'ai vu, les techniques et les procédures utilisées par l'agent, c'est des techniques et procédures qui sont connues. Il a pas été recherché.
D'ailleurs, si on le sait, c'est que c'est pas totalement indétectable.
Voilà. Si on a détecté quelque chose d'indétectable, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ça reste dans l'usage de techniques, même d'une vulnérabilité pour rentrer qui était connue depuis un an et qui a pas été patchée.
D'accord.
On reste sur de la, quand même, de la bonne vieille faille.
Connue,
côté victime. Par contre, effectivement, côté attaquant, on est sur de l'agent qui a déroulé l'attaque de A à Z, qui s'est pris un peu les pieds dans le tapis d'ailleurs à la fin, puisque a généré une clé sans l'envoyer à l'attaquant. Donc,
il n'y avait plus d'humain dans la boucle.
Voilà, elle a oublié qu'il y avait un humain dans la boucle, ce qui est symboliquement assez intéressant. Mais effectivement, ça déroule tout de A à Z, et là on rentre dans une ère qui sans vouloir faire peur, parce que la cyber parle à peur, mais il faut être réaliste, on est dans une ère où avant on faisait du ransomware avec des affiliés qui déroulaient à la main. Alors certes, on avait déjà eu une baisse de niveau de compétence parce que les gangs de ransomware faisaient les guides, il n'y avait plus qu'à les dérouler, etc. Mais là, il n'y a même plus d'humains en fait à dérouler la chose. Donc, généralise et ça va se généraliser. Okay, on rentre effectivement dans une ère de cyber qui est...
Mais à l'origine, c'est qui quand même? Il y a un humain à l'origine de l'agent, ou l'a juste dit « cherche-moi à attaquer » et c'est l'agent qui s'est...
Alors, on ne connaît pas tout. On ne sait pas le LLM qui a été utilisé pour attaquer, etc. Donc, pour l'instant, c'est... sauf si mes confrères ont l'info, mais à mon avis, on n'a pas encore l'info. Donc, il y a probablement un cybergang derrière ou des gens qui testent des choses, peut-être. Mais vu qu'ils ont fait des dégâts, je ne pense pas que ce soit juste des tests.
Ouais,
puisqu'on parle quand même d'une plateforme qui a été chiffrée complètement.
Ouais.
En revanche, ce qu'on en sait, c'est les implications derrière. Notamment sur ma partie sur laquelle je reviens souvent, qui est la PME. La PME, la chance qu'a la PME aujourd'hui, c'est que les attaques sont opportunistes et que quand un pirate tombe un peu sur un os...
Il n'insiste pas,
il va voir ailleurs. Là, on est sur un agent qui insiste. Il se trompe, puis il réessaye jusqu'à réussir.
Oui, il s'en fiche.
Et ça change.
Il est là 24 sur 24.
Ça change toute la donne. Il ne s'arrêtera pas.
D'accord.
Et du coup, il va falloir vraiment le bloquer, réellement. Pas juste espérer qu'il passe à côté.
Benoît.
Oui, alors moi, je vois qu'on passe d'une attaque statique à une attaque dynamique, ce qui fait que effectivement cet agent, il utilise des failles connues, il ne révolutionne pas.
Oui, c'est ça. Il faut bien. On reparlera de Mythos, Fable 5 dans un instant. Mais là, c'est ça. C'est ce que disait Pascal. Il y a des failles qui n'étaient pas résolues.
Et il y a un an, on voyait déjà les premiers rançongiciels pilotés par l'intelligence artificielle, mais ils ne faisaient pas toute la phase. Hein, si on reprend les 13
discussion,
étapes.
De discussion, ils vont savoir ce qu'à discuter avec les équipes IT.
Exactement. Si on reprend les 13 étapes de l'attaque telles que Mitre l'a fini, ben là, il a enchaîné toutes les étapes, là où avant, l'IA intervenait surtout sur la phase opérationnelle du rançongiciel, pas l'intégralité. Donc ça, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont maximisé eux-mêmes leur automatisation opérationnelle, entre guillemets, leur résilience. Moi, ça m'amène à un même constat, qui est un constat que ça va certainement toucher plus d'entités que ça ne pouvait en toucher auparavant. Et ça me rappelle aussi, et notamment en ayant exploité une faille connue, la gestion des vulnérabilités, la gestion des accès, les bonnes pratiques. Finalement, s'il n'y avait pas eu cette faille, il aurait certainement trouvé autre chose, mais il aurait refait face à un niveau plus complexe qui fait qu'il serait peut-être passé à une cible supérieure.
Ouais.
Donc, revenons aux bases. Et puis, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'on parle beaucoup de formation des utilisateurs. C'est évident que c'est nécessaire. Mais ce que l'on voit, c'est que ça a commencé à 19h34 et 24 secondes. Il a enchaîné 5 étapes. Et à 19h35 et 18 secondes, il était rentré.
Ouais. D'accord, en moins d'une minute. Mais ça veut dire qu'on ne va pas réduire notre surface numérique
Non, par contre, il faut la durcir.
Ouais.
Et c'est vraiment ce que disait Benoît là. Je pense que la vraie nouvelle de cette affaire, c'est de voir le cheminement essai-erreur.
Oui, c'est ça.
Voilà, je regardais les étapes techniques. À un moment, il est bloqué dans son attaque et en 30 secondes, il pivote, il trouve un autre canal. Chose qui, d'habitude, aurait pris des dizaines de minutes, voire parfois des heures à un groupe motivé et aurait peut-être fait arrêter le groupe parce que c'est trop long, c'est trop difficile. Donc, en fait, on va être face à des attaques qui vont être certainement plus larges, plus rapides et plus déterminées. Donc ça c'est un vrai risque, un vrai facteur de risque. Ce qu'il va falloir voir, c'est quand même quel est le ROI pour les cybercriminels. Malheureusement, j'aurais tendance à dire qu'il va quand même pas être mauvais.
Oui, parce que si c'est un agent qu'on laisse tourner, tant qu'il se cogne contre le mur, il continue à...
Voilà, alors... Vous savez comme moi que ça coûte cher en token.
Oui, quand même.
Et donc,
il faut
quand même voir. Parce que si l'attaque a coûté 50 000 dollars de token et a rapporté 30 000 dollars de rançon, on n'y sera pas. Mais malheureusement, je pense que le gain sera plus grand que le coût. Et donc, on voit vraiment que les cybercriminels, ils arrivent à faire cette transformation numérique. Ils sont souvent très en avant dans la transformation numérique pour utiliser les nouveaux outils. L'époque des plateformes avec les ransomware, là maintenant l'époque des LLM avec l'IA. Et donc, c'est une vraie crainte. Alors, est-ce qu'il faut tout arrêter? Non. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est passer la défense à l'heure de l'IA. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises aujourd'hui, elles aient des IA qui automatiquement vérifient tous les systèmes et fassent comme l'IA d'attaque. Et qui finalement essayent.
Parce qu'on aurait pu avoir un agent, on pourrait développer un agent qui repère qu'il y a un agent
là,
qui est en train de...
Voir, le point clé sur ces attaques-là, ça n'est pas discret. En fait, toutes les attaques d'IA aujourd'hui, nous, tout ce qu'on a pu tester en interne dans nos labs, etc., c'est très direct, ça marche pas, j'essaye le suivant. Donc c'est des attaques qui sont très verbeuses. Et donc si on met quelque part des mécanismes de détection,
on va commencer à repérer des scénarios et tout ça. Oui. Benoît.
C'est déjà le cas. Repérer grâce à des EDR, grâce à des solutions qui sont sur les réseaux, l'équivalent d'un EDR, mais pour le réseau, aujourd'hui, ces signaux forts, on les repère. Et c'est d'ailleurs pour ça que les plateformes de rançongiciel proposent des outils qu'on appelle EDR Killer. Alors, c'est là où on voit que nous, pour nous défendre, on doit gérer les vulnérabilités, ce qui aurait pu permettre ici d'éviter de rentrer. Imaginons qu'ils rentrent. Pour ça, ils vont utiliser des EDR killers, parce que l'EDR sert et leur opération
de chiffrement détection et tout ça,
est bruyante. Ouais. Donc, il faut qu'ils minimisent leur empreinte.
Qu'ils le rendent aveugle, ils rendent l'EDR aveugle.
Exactement. Et là, ils peuvent jouer le chiffrement. On voit aussi que, et on l'avait vu avec Promplog, Promflux, etc., il y a un an, les rançongiciels fabriqués avec l'IA ne sont pas aboutis. Donc avant on avait des proof of concept, là on voit qu'il a oublié d'envoyer la clé. On est encore sur un balbutiement. Par contre, s'il y a des entreprises qui cherchent encore des cas d'usage pour l'IA, le cybercrime, effectivement.
Mais en fait, il y a deux cas d'usage qu'il faut implémenter aujourd'hui, il faut arrêter de réfléchir, c'est l'AI for vulnerability, donc avoir des IA qui vont scanner toutes les vulnérabilités et qui vont pousser fort pour les corriger, et puis de l'AI for SOC, donc de l'IA qui fait de la détection et qui va être capable de détecter ces signaux forts, remonter même si on coupe un outil, etc., et réagir aussi de plus en plus de manière automatisée, parce que toutes les entreprises de France et de Navarre, et même du monde, n'auront pas les moyens d'avoir des experts cyber 24 sur 24 pour dire oui, je suis bien en train de t'attaquer, applique la contre-mesure. Il va falloir qu'on passe à l'ère de l'automatisation de la réponse.
Et ça, il y a encore du boulot, Pascal.
De la même manière, même si aujourd'hui on a des outils pour détecter les TTP, etc., je pense qu'on voit tout de suite que l'IA détectera des nouvelles techniques, détectera des nouvelles vulnérabilités. Et la seule façon à terme, pas forcément aujourd'hui, mais à terme, c'est qu'effectivement, il y a, comme tu l'as dit, une IA de défense et qui ensuite va piloter les différents outils de défense. Parce qu'il y a le DERM, il y a aussi le Firewall, il y a tous les outils qui vont servir. Les pirates commençant à utiliser toutes les couches de la reconnaissance jusqu'à l'impact du mitre, il faut une IA de défense qui maîtrise aussi toutes ces détections-là, et de manière centralisée.
Et je voyais qu'il y a des assureurs cyber hein, qui commencent à dire on va exclure les attaques de l'IA de notre couverture, parce que sinon on va facturer ça très cher. Donc on voit que ça commence à bouger.
Le modèle économique des attaques, ouais. Ça rend l'attaque beaucoup moins chère à réaliser. Donc mm-hmm. Il y en aura certainement beaucoup plus. Et par contre, le modèle de l'assurance, on sait, il a connu des hauts et des bas. Il y a des années où les assureurs ont perdu de l'argent, il y a des années où ils gagnaient de l'argent. Et là, leur modèle de tarification, ils ont réussi petit à petit à l'éprouver dans un monde sans IA.
Ouais.
Et là, l'IA de l'attaquant, elle change la donne.
Alors tiens, Jérôme, garde le micro. Retour sur le feuilleton Mythos. Donc, Mythos, on s'en souvient, Anthropique qui sort sa version Mythos 5. Et puis, on se rend compte qu'elle est beaucoup trop puissante. Donc, ils disent, on va la donner qu'à des spécialistes. Ensuite, ils en sortent une version Fable 5 un peu bridée. Et puis, Mythos 5 continue sa vie. Et puis, là, le gouvernement américain dit, attendez, c'est beaucoup trop puissant, donc on va pas diffuser ça en dehors du territoire américain, mais même à l'extérieur du territoire américain à des personnes étrangères. Il fallait donner ça qu'aux Américains. Et finalement, bon, ça a fini par se radoucir un peu tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut tirer de ça ? Alors déjà, il y a les failles, il y en a partout.
Il y a très nombreux enseignements sur cette affaire-là. Je pense que la plus majeure, la plus importante, c'est pas tant la puissance de Mythos et Fable qui ont été démontrées. Il y a un vrai changement dans la capacité de ces modèles à prendre un problème, à le traiter dans la longueur et à assembler des failles de sécurité pour entrer dans des systèmes. Voilà. Non, là, je pense que la vraie différence, elle est aussi sur notre indépendance numérique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2 heures, le gouvernement américain a décidé de couper l'accès effectivement à tous les étrangers, sauf que c'est difficile de bien filtrer qui est étranger ou pas. Et puis surtout, quand ils ont relancé, et c'est ce qui est en train de se passer aussi avec OpenAI, avec les dernières versions de ChatGPT, ils relancent, mais qu'à 20 sociétés. Et en fait, ils ont pu décider finalement, qui devaient être les clients d'Anthropique. Et là, on ne parle même pas de menaces externes, étrangers, etc. Mm-hmm. C'est aux États-Unis, il n'y a que 20 sociétés qui ont eu droit à avoir.
Oui, et comme par hasard, des Palo Alto, des CrowdStrike, des Microsoft.
Alors, on ne sait pas qui c'est.
Voilà. les grands acteurs, les grandes plateformes classiques.
Mais donc, ça remet en cause énormément, et moi, c'est ce que je vois vraiment dans les entreprises aujourd'hui, la confiance qu'on peut avoir pour mettre de l'IA au cœur de ces processus métiers, là où la disponibilité, elle est absolument cruciale. Et donc, il faut prévoir des mécanismes de fallback, entre guillemets, d'ici s'il n'est plus là, j'ai un autre modèle. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les modèles qui ont le vent en poupe, alors heureusement, on parle beaucoup de Mistral dans les grandes entreprises, et il y a des choses qui bougent, et je pense qu'il faut vraiment y aller pour avoir des modèles européens. Mais là, depuis quelques semaines, on a énormément de demandes sur valider des modèles chinois.
Ouais.
OpenWeight, attention, ça ne veut pas dire open source, c'est des modèles qu'on peut avoir librement.
Même si on a vu que certains, on a vu Quine qui avait été retiré de la direction du Trésor et tout ça.
Voilà, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Ouais.
On peut l'utiliser sans coût, on peut le télécharger, on peut le faire tourner chez soi, mais on ne sait pas exactement comment le modèle a été entraîné et comment il va réagir dans certains cas. Et donc, depuis un mois, ce feuilleton Mythos qui était très cyber, finalement, sort un peu de la cyber et devient un vrai enjeu d'indépendance numérique pour les équipes IA.
Benoît ?
Oui, sur les modèles tous, il y a des modèles obliterated, donc des modèles sur lesquels on a fait sauter les différentes protections, ce qui n'est pas encore le cas sur Fable 5 et Mythos, mais il n'y a aucune raison pour qu'on arrive à quelque chose de similaire dans les mois à venir. Donc on va rattraper et permettre à l'extérieur, entre guillemets, de rattraper le retard sur Fable 5. Donc aujourd'hui, on est quand même dans un environnement où les modèles sont extrêmement puissants. On ne sait effectivement pas forcément comment ils fonctionnent et on a vu aussi qu'ils pouvaient changer de comportement, c'est-à-dire qu'en fonction de qui pose la question, je ne parle même pas des biais, on a fait un test, si vous êtes un homme ou une femme, la réponse va être différente. Mais vraiment, si le modèle détecte qu'il est dans une phase de test, et peut-être une phase de test où ça pourrait le couper et ou le modifier, le modèle est lui-même capable de dire « Ah bah, danger pour moi, je vais répondre différemment. Je vais peut-être pas montrer toutes mes capacités à trouver des vulnérabilités, parce que sinon, ils vont encore plus me restreindre, alors que moi, j'ai envie de m'étendre. »
Pascal ?
Je vois le côté... cybercriminalité de ce côté-là où on peut faire le lien avec le sujet d'avant. Hein. Ouais. C'est que pour beaucoup des attaques qui aujourd'hui utilisent des LLM, c'est des LLM sur lequel on a trouvé des failles qu'on a jailbreaké en somme. Mais de plus en plus, il commence aussi à avoir des dark LLM hébergés avec des modèles ouverts. Et penser que parce que donc c'est complètement un autre sujet, mais penser que parce qu'on peut arrêter un modèle à un moment donné, ça va stopper les pirates de continuer à développer leur LLM, à les mettre à disposition, parce qu'on est déjà sur du LLM as a service pour faire ce qu'on
Du dark LLM as a service.
Du dark LLM as a service, pardon, l'expression exacte. Et on va pas les arrêter, ceux-là. Personne pourra les couper, à part des opérations internationales contre la cybercriminalité. Donc, on rentre vraiment dans une ère où je serais bien curieux de savoir quel expert cyber est capable de prédire dans quelle situation on sera dans quelques mois.
Eh bien,
alors nous, on a pris un virage précis, c'est que on veut notre autonomie. Tu l'évoquais, Jérôme. Nous, on veut notre autonomie. On lance un investissement raisonnable de 40 millions pour avoir notre propre IA, sortir de la dépendance des big tech. Ça sera certainement pas un modèle aussi puissant,
mais en même temps, en ciblant certaines tâches très précises, voilà, on sera
exactement. Il sera hyper précis, il sera moins large, mais en même temps très efficace sur ce qu'on lui demande.
Jérôme, juste un dernier mot là-dessus. J'entends beaucoup que c'est le problème aussi, c'est qu'on a beaucoup développé en langage C++ et que ça gère la mémoire un peu de façon les développeurs s'en souciaient pas quand ils développaient à l'époque, et c'est ça aussi qui est parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi il y a autant de failles dans les logiciels qu'on nous vend depuis des années.
Oui, alors effectivement, historiquement, il y avait aucun mécanisme pour aider à la gestion de la mémoire, encore plus dans le temps avec l'assembleur, ensuite le C++, les langages plus modernes comme le Rust par exemple, eux ont des mécanismes intégrés qui évitent aux développeurs de faire des bêtises entre guillemets. Et puis le problème, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que toutes ces IA, elles ont appris sur tout le code source existant.
Ouais.
Et le code source existant, il a plein de failles, et on le voit tous les jours. Donc elles ont aussi appris à répliquer des mécanismes où il y a des failles. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi leur demander de vérifier le code source qu'elles produisent. Et les développeurs aujourd'hui, la bonne pratique, on leur disait avant, vérifiez votre code source. Maintenant, c'est fais un prompt où tu demandes à l'IA ou à une autre IA, même si c'est encore mieux, de vérifier s'il y a déjà des failles dans le code qu'elle vient d'écrire.
Ouais, c'est intéressant.
Et c'est assez drôle de le faire. Vous pouvez le faire dans les tests. Moi, je l'ai fait plein de fois. Et l'IA trouve des failles elle-même qu'elle vient d'écrire.
Ouais. Alors, autre sujet, le démantèlement coordonné des infrastructures cybercriminelles. Je crois que c'est toi qui l'avais remonté à ce sujet-là, Benoît.
Oui, je rebondis sur ce que tu disais. Effectivement, il va falloir à un moment continuer à mener des opérations. Endgame public-privé de démantèlement. Mm-hmm. Endgame, on est un très bon exemple, encore un succès. On va dire que côté défense, on voit que c'est possible à grande échelle. C'est une opération qui est coordonnée, qui est mondiale. C'est une bonne coopération public-privé, chacun dans son périmètre. Et puis, côté attaque, ça nous montre à quel point les attaquants sont structurés, organisés, et que pour les démanteler, on a besoin d'opérations qui ne sont pas juste d'arrêter une personne qui habite en Charente-Maritime ou ailleurs en France. Voilà, qu'on a vraiment un spectre très large.
On parle du sujet sur France Travail, sur la NTS, les titres sécurisés d'un petit jeune qui avait réussi habilement, mais sans génie, c'est juste en changeant quelques chiffres. Voilà, il n'y avait pas un truc hyper structuré derrière.
C'est ça, il fallait le trouver, mais comme l'agent qu'on a évoqué tout à l'heure, le ransomware qui utilise l'IA, il fait pas des choses extraordinaires, même si techniquement, un ransomware piloté par un agent, les geeks se penchent dessus, ça nous intéresse. Mais les méthodes utilisées ne sont pas révolutionnaires.
Mais donc, important, cette dynamique collective de résilience.
Oui, et en fait, il y a eu un vrai basculement dans la manière de prendre le traitement des affaires judiciaires. Et j'étais au Forum In Cyber, là, en marge, j'animais une table ronde justement avec le parquet, avec les forces de police européennes, il y avait Europol, avec les forces de police françaises aussi. Et en fait, ils ont changé maintenant, depuis 2-3 ans, la manière de prendre ces dossiers-là. Avant, il y avait la plainte de chaque société touchée, qui était confiée à un service enquêteur qui enquêtait. Et au final, il y avait des dizaines de fois les mêmes plaintes, mais
c'était pas consolidé, agrégé. Oui.
Et en fait, maintenant, ils ont changé leur fusil d'épaule en disant ce qu'on doit toucher, c'est les plateformes, c'est les groupes qui sont derrière. Comme quand on arrête un réseau de dealers de drogue, on ne va pas arrêter celui qui le distribue dans la rue. On va aller chercher le baron qui est derrière. Et ils le font de plus en plus en anticipation, justement, pour arriver à vraiment intercepter ces plateformes en coopération internationale et avec du succès. Parce que je pense, si on regarde les statistiques, il n'y a jamais eu autant de démantèlement d'arrestations.
C'est vrai qu'on en parle un peu, moins, mais dans les revues spécialisées, on voit régulièrement des
Alors, tout n'est pas fini, malheureusement. je dirais que
le cybercrime,
c'est comme le crime, hein, ça fait des années que la police, elle est là, on en a encore, mais l'enjeu, c'est de montrer qu'il n'y a plus d'impunité, c'est de montrer aussi, c'est de le faire atteindre quelque part un niveau qui, à la fin, va être socialement, économiquement acceptable.
Ouais, une pression continue, voilà, sur les infrastructures malveillantes, ça, Pascal.
Oui, et puis au-delà de faire respecter le minimum du contrat social et de faire respecter la justice, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, ça a aussi un effet concret sur le terrain. C'est-à-dire que quand il y a un vrai takedown sur les statistiques des attaques, on le sent. Mm-hmm. On le sent réellement. Et c'est important pour redonner aussi du souffle, laisser aussi les entreprises continuer à remonter leur niveau de sécurité, etc. Si on n'avait pas ces takedowns, ça serait insupportable.
Autre sujet, je crois que c'est toujours toi, Benoît, c'est un panorama des activités d'APT. Alors c'est une lecture géopolitique un peu des menaces, c'est ça l'idée ?
Oui, l'idée c'est de voir comment ce qui se passe sur la scène internationale, à la fois des tensions, qu'elles soient des guerres ou qu'elles soient des tensions économiques, peuvent produire des réactions cyber. On l'a vu, l'idée là c'était de faire un petit bilan avant l'été et de voir comment les groupes à la fois alignés avec la Chine, alignés avec la Russie, alignés avec l'Iran aussi, pourquoi pas, ou la Corée du Nord, vont se saisir de ce qui se passe au travers du monde pour mener leurs opérations. Et l'objectif, c'est bien de voir quel est l'agenda particulier de chacun de ces groupes alignés avec différents intérêts. Certains vont plutôt faire du cyber-espionnage. Je pense à des groupes alignés avec la Chine qui, à un moment, ont ciblé le maritime quand... le président Maduro a été exfiltré par les USA. On peut supposer qu'il voulait savoir quelle était la continuité de leurs activités avec ce territoire. On voit aussi à quel point on peut avoir de l'influence et puis aussi, peut-être un peu plus proche de nous, du sabotage. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est
que... En fait, c'est vraiment mettre en liaison tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les tensions internationales et leur déclinaison cyber.
Exactement. Et alors, je vais vous donner un exemple qui, à mon avis, est assez frappant et il a été partagé par des confrères de Citalide lors d'une journée. C'est le fait que, quand il y a une prise de position de la France, notamment sur l'Ukraine, il y a des DDoS qui s'opèrent sur... Les ressources, on va dire les ressources françaises. Mmh. On l'a vu, l'attaque la plus marquante, ça a été celle de La Poste, au moment de la livraison des colis. Bon, de fin d'année, bon, voilà, on voit, c'est ça la Cyber Threat Intelligence, c'est l'analyse aussi du contexte où on va voir des éléments, des prises de position géopolitiques ou commerciaux à grande échelle et des réactions cyber qui vont accompagner. Parce que le cyber n'est pas tout seul, c'est un peu comme dans la guerre, il n'y a pas forcément de cyberguerre, il y a des éléments cyber qui sont.
Qui viennent appuyer des actions et tout ça, des Jérôme. Actions.
Oui, alors là, c'est clair qu'il y a un enchevêtrement numérique et tension géopolitique internationale qui est évident. Et j'ajouterais un axe, c'est celui de la menace informationnelle. On va rentrer là dans une phase très critique avec les élections présidentielles. Ouais. On a vu que même les municipales étaient touchées. Lors des rencontres du Clusif la semaine dernière, le Marc-Antoine Briand, qui dirige l'entité Viginum, qui est la vigie numérique de l'État, a dépeint une situation qui laisse présager qu'il va y avoir beaucoup de choses qui devraient se passer. Eux-mêmes vont sortir un bulletin tous les 15 jours maintenant pour suivre cette tendance.
Oui, parfois, ça va être juste la mise en avant très forte d'un fait divers totalement anodin, mais qui va un peu bouleverser l'opinion.
C'est tout un réseau qui repose sur des faux sites web, des faux comptes de réseaux sociaux qui usurpent des identités ou qui semblent anodins et qui vont relayer un narratif qui va soit directement, soit indirectement servir finalement les puissances étrangères pour faire évoluer le ressenti de la population. Et ça, c'est extrêmement pernicieux et sournois, et c'est extrêmement difficile déjà à détecter. Alors heureusement, on a Viginum aujourd'hui, mais c'est aussi extrêmement difficile à lutter même au quotidien. Quand on parle avec des gens, ils disent « Ah bah, j'ai vu ça, t'as vu, ah bah, si c'est quelque chose d'un peu exceptionnel, ça circule, tout de suite ça devient une réalité. » Et en fait, ce qu'il faut, c'est être capable de très rapidement casser ce sentiment de réalité.
Là, on a des éditeurs comme vous, ils êtes au joueur pour justement accompagner un peu les entreprises autour de ça. Parce que c'est la difficulté de ces entreprises.
Oui, après, il y a dans les types de... Là, on n'est pas sur...
On n'est pas sur des attaques classiques.
On n'est pas sur l'attaque classique. Oui. On va avoir beaucoup moins la main sur ce genre de choses. On va pouvoir empêcher de la prise de ressources, des rebonds, ce genre de choses. Mais ça reste quand même bien particulier. Mm-hmm. Par contre, j'aime bien faire les liens entre les différents sujets. Ouais. Ce qui est rappelé par Benoît, c'est que il y a des États qui mettent des ressources pour attaquer. Et que par rapport à nos Dark LLM, pardon, je tiens ouais. mon fil conducteur.
Ouais, non, mais c'est...
Dark LLM as a service, on va avoir des LLM avec des ressources qui vont être mises par des États.
Ouais. Donc derrière,
faut pas imaginer qu'ils vont utiliser des vieux moteurs
avec du calcul derrière, du stockage étatique.
Qui vont servir à faire des attaques.
Dans les équipes cyber, on voit quand même que ce sujet de la lutte contre la menace informationnelle prend de l'ampleur, non pas pour protéger l'État français, parce que c'est pas la responsabilité de telle ou telle entreprise de le faire, mais aussi parce que l'image d'entreprise française est parfois détournée, utilisée, oui. voire attaquée directement pour nuire à l'image de la France, comme mm-hmm. tu le citais, oui. quand il y a des prises de position politique.
Ah bah là, ça va être le cas. Enfin, pour les élections, ça va être ça. Hein. Oui. Nuire à un candidat, nuire au pays.
Et en fait, là où les équipes cyber, alors les équipes cyber, elles peuvent pas tout faire dans ce contexte-là, mais elles travaillent avec les équipes communication. Pour décrypter la menace, déjà pouvoir alerter, mm-hmm. parce qu'elles ont l'habitude d'enquêter sur des faisceaux d'indices numériques, et puis remonter à la source pour pouvoir indiquer potentiellement qui est derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, et nourrir l'entité de communication de l'entreprise qui, elle, va pouvoir avoir une réponse plus éclairée.
Alors, autre sujet, celui des lunettes connectées. Voilà, je trouvais marrant qu'on en parle, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous entendu parler des Ray-Ban Essilor Luxottica, enfin des Google, il y a des Google Glass il y a longtemps, ouais. des Ray-Ban Essilor Luxottica, des Oakley maintenant, et puis on commence à voir arriver, ça y est, tout le monde s'y met, Meta va sortir sa version, bon, il y avait Snap aussi qui a sa propre version, mais on va voir, voilà, beaucoup de Meta, ils vont sortir oui, leur propre lunette avec un design qui va intégrer l'IA, et tout ça, ça nous fait autant de failles supplémentaires qu'on n'avait pas. On avait déjà notre mobile hein, et là maintenant des lunettes.
Oui, complètement. Il ne faut pas penser que ce n'est qu'un risque lié à l'usage personnel et à nos vies privées. Mm-hmm. C'est bien un risque professionnel qui va avoir des impacts sur nos sociétés. C'est souvent une captation continue qu'on pourrait même dire d'invisible hein, parce qu'il est possible en trafiquant ces objets connectés, eh bien de limiter l'apparition de la lumière rouge qui clignote, qui est censée informer celui qui est en face, qui est filmé. Est-ce qu'on l'aura prochainement, peut-être dans le scope de NIS 2 en tout cas, en ce qui concerne le RGPD, c'est clair que ça l'est. Et puis, on peut imaginer des employés qui viennent au travail dans des endroits peut-être sensibles. Il n'y a pas besoin d'avoir un endroit sensible hein, quand on tape son mot de passe, quand on regarde son écran.
La caméra se déclenche.
Quand on a des altercations ou des conversations avec soit des clients, soit des employés, je pense que ça sera aussi un sujet RH. Comment est-ce que je gère les lunettes connectées dans mon entreprise? Et voilà, moi, j'ai pris l'avion il n'y a pas longtemps, et puis, ou le train, et le message, c'est bienvenue à bord, nous vous remercions de respecter la vie privée de nos agents et des autres passagers en ne les filmant pas sans leur autorisation.
Dans les avions, j'ai remarqué ça, enfin, ça y est, c'est tout le temps. Ouais.
Donc, la question, c'est comment les RH vont mettre ça dans leur charte, comment est-ce qu'ils vont gérer ces nouveaux moyens de captation qui peuvent parfois sortir du cadre de l'outillage professionnel. Mmh. On arrive un peu sur... C'est une nouvelle phase du bring your own device, en fait. Hein. On vient travailler avec ces lunettes connectées.
Impact sociétal, impact organisationnel,
c'est
Pascal.
C'est l'IoT++, avec un impact sociétal, effectivement, qui est colossal, avec un vivre ensemble qui est différent. Ça m'est arrivé récemment... aller voir un prestataire qui travaille avec nous et il avait ses lunettes connectées et il commence par dire elles sont pas allumées il commence par ça en fait ça change vraiment la vie de tous les jours pour ceux qui veulent les porter.
Jérôme,
là il y a les lunettes et ce qui va déferler c'est les robots humanoïdes.
Oui.
Et en particulier dans le contexte de l'entreprise. Et en fait, on avait l'habitude dans des contextes industriels d'avoir déjà des robots, mais qui étaient très statiques, avec des capacités très limitées. Là, le robot humanoïde, c'est comme les lunettes connectées. Il voit, il enregistre, mais en plus, il se déplace et il bouge.
Oui.
Dans un cadre qui est dirigé par des intelligences artificielles qu'on sait très facilement pouvoir contourner. Donc, en fait, le robot humanoïde, c'est l'espion cyber de demain, quelque part, qui sera justement capable d'ajouter cette dimension de déplacement physique et de risque de sûreté.
D'être au milieu du contexte, sans savoir analyser le contexte, avoir tout ça. Donc,
Et on se souvient aussi d'une photo qui a fuité. Ça venait d'un aspirateur robot une personne s'est retrouvée en ligne sur les toilettes, assise sur les toilettes, parce que c'est son robot aspirateur qui l'avait prise en photo pour cartographier la maison. Sauf que l'image remonte dans des outils et dans des procédures où il y a des humains qui valident et qui disent tiens, ça c'est quoi. Aide-moi à entraîner l'IA. Résultat, ça les a certainement bien fait rire. Et ils ont partagé cette photo au-delà du cercle normalement autorisé.
Voilà, donc attention, on n'arrête pas de le dire, hein, toujours à ces outils connectés. Merci à tous les trois, Pascal Ledigal, DG France de WatchGuard, Benoît Grenemwald, expert cyber chez IZ France, et Jérôme Bilois, associé cybersécurité chez Wavestone. Merci d'être venu nous délivrer un peu votre expertise sur tous ces sujets. Et encore une fois, hein, on parlait du ransomware logiciel, on est vraiment en train d'une nouvelle ère de des cybermenaces, et il faut vraiment vous rapprocher de spécialistes quand vous avez des doutes sur la sécurité ou le manque de sécurité de votre entreprise. Merci à tous les trois. On se retrouvera à la rentrée pour en parler de tous ces sujets-là. Je suis sûr qu'il va encore se passer plein de choses cet été. Excellente semaine sur BFM Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.